Chapitre 18. Le religieux avait ralenti le pas. Sa voix grave résonnait sous les arches plusieurs fois centenaires, réceptacle de milliers de prières. Charcot ne croyait pas en la mémoire de la pierre, mais ce lieu dégageait une force qui imposait le respect. L'hiver dernier, un homme d'une cinquantaine d'années a débarqué à l'abbaye en pleine nuit. Il neigeait très fort, je me rappelle. Nous n'avons jamais su comment il était arrivé jusqu'à nous. Il était terrorisé, les vêtements pleins de boue. De toute ma vie, je n'avais jamais lu une telle peur dans le regard de quelqu'un. L'obscurité régnait partout désormais. Les yeux ne voyaient plus, mais Louis n'en était que plus aiguisé. Charcot percevait des murmures de roches, des écoulements d'eau, des bruissements de vent, comme si le lieu était vivant. « Cet homme, c'était David Nebraza, » expliqua l'ecclésiastique. « Il nous a supplié de le garder avec nous, ici. Il ne tenait plus debout. Quand on lui a proposé d'aller se reposer, il a dormi plus de 24 heures d'affilée. » Le moine semblait perturbé par ce qu'il racontait. Son timbre était moins assuré. Il entama un nouveau tour de cloître. « Qu'est-ce qui s'était passé ?» demanda Franck. « David prétendait être poursuivi et attaqué par des démons, et ce depuis des semaines. Lui qui blasphémait dès qu'il ouvrait la bouche disait que, dans la maison de Dieu, il pourrait leur échapper et être en sécurité. » Par démon, vous entendez des gens qui lui voulaient du mal?
Pas des gens, des entités malignes, celles qui sont de l'autre côté.
Charcot fronça les sourcils. Jusqu'à présent, son interlocuteur lui avait semblé avoir les pieds sur terre. Le policier espérait qu'il n'allait pas basculer dans un délire mystique. Je ne suis pas sûr de bien comprendre.
Des êtres malins attendent les âmes damnées aux frontières de la mort et les empêchent de monter au ciel. David disait que certains, suite à une de ses expériences, avaient réussi à revenir avec lui dans le monde des vivants et qu'ils s'acharnaient désormais sur lui pour le ramener en enfer.
De la pure science-fiction, Frank songea au diorama d'Emma. Ces monstres accrochés aux parois rocheuses de la grotte. Le temps d'un flash, il imagina une horde de diables à la queue fourchue s'engouffrant dans un passage de lumière pour quitter le royaume des morts et pénétrer celui des vivants. Il secoua la tête. Il avait vu trop de films d'horreur. Et le père François n'était pas là pour le rassurer.
« Je sais ce que vous pensez, » continua celui-ci, comme s'il avait lu en lui. « Mais vous n'étiez pas là ce soir-là. Il n'a pas plongé ses yeux pleins de terreur dans les vôtres. Et puis, il nous a également montré son dos. » Je n'avais jamais vu une chose pareille. Il y avait des déchirures, des marques de coups, des morsures étranges et profondes, identiques à celles d'un animal. Quant à ses cheveux, sa barbe et ses sourcils, ils avaient subitement commencé à blanchir. Un blanc de craie.
Soupir. Silence. Faire appel à ses souvenirs semblait pénible pour l'abbé. Sa voix pourtant s'éleva de nouveau, se propageant telle une vibration dans tout le cloître. David a parlé de ses attaques de démons sur son site internet. S'il existe toujours, vous y trouverez quelques images de son corps. Des bleus, des rougeurs. Et encore, ce n'était que le début, très loin du degré atteint le soir où il a fui son domicile pour se réfugier ici. Soudain, l'ecclésiastique s'arrêta de marcher et fixa Charcot. Son visage, dans la pénombre, était presque inquiétant.
J'ai pensé faire un signalement à la police, mais j'avais la conviction que l'histoire aurait mal fini. Alors, nous l'avons recueilli dans nos murs, en attendant que les choses se tassent. Et ce qui ne devait durer que quelques jours se poursuit encore aujourd'hui. David est là. Il fait partie des nôtres. Enfin, d'une certaine façon.
C'est-à-dire ?
David est perturbé. La peur des démons est toujours présente, recroquevillée au fond de lui. Parfois, elle jaillit et le rend fou. Dans ces moments-là, il n'y a que la musique classique qui l'apaise. Il a réclamé, peu de temps après son arrivée, le boléro de Ravel. Il le passe en boucle dans ses écouteurs quand ça va mal.
comme si ce morceau spécifiquement chassait le malin. Frank ne voyait pour l'instant aucun fil conducteur, aucune rationalité dans tout ça. Juste des images, pêle-mêle, le visage hurlant de Nathalie Charlier en bas de son escalier, le diorama figurant Emma Doty suspendue au-dessus des cadavres, le cordeau drap sur le bitume à proximité de la maison du nécrophile. La mort partout, avec ses différentes facettes. Il revint à lui, dans le cloître glacé. Il sentait le souffle du moine sur son visage. Donc, Emma est venue voir Nebraza. Pourquoi ?
Elle avait fait des recherches sur lui et avait vu les photos sur son site. Elle voulait à tout prix le rencontrer et discuter avec lui de ces entités qui l'agressaient. J'ignore comment elle l'a retrouvé. Quelqu'un devait savoir qu'il avait décidé de se terrer chez nous. Elle était en tout cas vraiment impatiente de s'entretenir avec David, mais... Écoutez, commandant, David ne parle plus à personne, pas même à nous, sauf à de très rares occasions qu'il se compte sur les doigts d'une main. Il refuse qu'on le touche et vit reclus dans une chambre sommaire. Emma a fait preuve d'un acharnement incroyable. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté tous ces allers-retours. Elle n'a pas abandonné. Elle frappait à la porte de l'abbaye, je la laissais rejoindre David. Elle restait parfois 5 minutes, parfois 1/2 heure. Je ne sais pas s'il se confiait à elle. En revanche, à un moment, il y a eu des lettres.
Charcot eut un frémissement. Des lettres ?
Des courriers que David lui écrivait. C'est moi qui les postais à Oxon. Chaque fois qu'il lui en envoyait une, on voyait réapparaître Emma 1 ou 2 semaines plus tard.
Des lettres. Charcot n'avait rien remarqué lors de son incursion chez la jeune femme.
Vous savez à quand remonte la dernière ? Je dirais début octobre.
Après sa disparition. Cette lettre avait donc des chances de se retrouver sur la table de cuisine avec les autres enveloppes auxquelles il n'avait jeté qu'un rapide coup d'œil. Qu'avait bien pu raconter Nebraza dans sa correspondance, poussant Emma Doty à multiplier ainsi ses visites ? En attendant de creuser la question, Frank sortit son portable et afficha la photo du premier diorama.
C'est David, n'est-ce pas ?
Le moine trappiste rajusta ses lunettes et acquiesça.
C'est impressionnant. C'est Emma qui a fait ça ?
Elle était sur le point de le terminer. Quand je l'ai découvert dans son atelier, j'ai cru que l'homme représenté était mort.
David est squelettique, en effet. Entre ça, son teint très particulier et cette blancheur capillaire dont je vous ai parlé, votre confusion ne me surprend pas. On ignore d'ailleurs ce qui a pu causer une telle canicie. Il ne consomme par jour que 5 aliments en quantité minimale, toujours les mêmes qu'il ingurgite à la même heure. Il compte ses pas dans sa chambre et rythme sa respiration. Aujourd'hui, il suffirait d'un souffle pour le briser. Il se tient en équilibre plus que jamais sur l'infime filin qui sépare la vie de la mort.
Sur ces paroles, l'abbé reprit sa marche.
« Je veux le voir, » dit Charcot. « Je veux voir Nebraza. »
L'homme secoua la tête.
« Ça ne sert à rien. Il ne décrochera pas un mot, je vous le garantis. »«
Essayez, s'il vous plaît. Montrez-lui ce diorama, » insista Frank en lui tendant son téléphone. « Dites-lui qu'Emma est probablement morte et que j'aimerais comprendre ce qui s'est passé, qu'il peut m'aider à trouver le coupable. »«
Morte, vous dites ?»«
On le pense, oui, même si nous n'avons pas de preuves pour le moment. » Une profonde tristesse s'empara de l'ecclésiastique. Celui-ci hésita encore quelques secondes et lui prit l'appareil des mains.
« Attendez-moi ici. »
Frank demeura seul dans l'aile où siégeait Notre-Dame. Il s'approcha et un frisson fila entre ses omoplates. La statue semblait le fixer avec un air de reproche. La tête inclinée paraissait le blâmer de ne croire en rien. Après cette entrevue, il avait finalement encore plus de questions sans réponse qu'à son arrivée. Dans quel guépier Emma Doty avait-elle fichu les pieds ? Qui Nebraza fuyait-il réellement ? Autant d'interrogations auxquelles le retour de l'abbé mit un terme. Ce dernier lui rendit son portable, le visage fermé.
« Je suis désolé. J'ai fait comme vous m'avez dit, ça n'a pas fonctionné. »
Il n'a même pas réagi.
« Non, rien du tout. Je pense qu'il est temps que je vous raccompagne. »
Les deux hommes se jaugèrent avec la rudesse de joueurs de rugby avant la mêlée. Le ton de l'abbé ne prêtait pas à confusion. Pas de négociation possible. Charcot était piégé. Il ne disposait d'aucun moyen de pression. Insister, c'était prendre le risque d'éveiller les soupçons. Or, un coup de fil au 36 et on lui tomberait dessus. Sans espoir, il laissa néanmoins son numéro de téléphone sur une page qu'il arracha de son carnet. Au cas où Nebraza changerait d'avis, appelez-moi. À n'importe quelle heure. Le père François saisit le morceau de papier qu'il glissa aussitôt dans sa manche. Une fois à l'entrée, il se dressa, tel un totem, dans l'embrasure de la porte.
Faites bonne route. J'espère que vous résoudrez votre enquête et comprendrez ce qui est arrivé à Emma.
Et une dernière question, si vous me permettez. Ces démons, ils existent selon vous? Ils seraient vraiment en mesure d'interagir avec notre monde?
Mon fils, Dieu a précipité les anges qui ont péché dans un abîme dont ils ne peuvent sortir. Ils seront enchaînés en enfer tant que la foi des hommes sera suffisamment forte. C'est la foi qui nous préserve du mal. Si vous perdez toute croyance, toute conviction, les abîmes se fragilisent, puis disparaissent. Ils libèrent alors les démons, et les ténèbres, elles, vous ensevelissent.
L'ecclésiastique se signa et referma derrière lui. Charcot put malgré tout entendre sa voix se répandre dans le vent.
« Que Dieu vous protège, mon fils !»